Voilà pour les annonces. Et je suis heureux d'ouvrir à nouveau la parole de Dieu avec vous et de méditer quelques enseignements en ce jour de dimanche de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Pour les Juifs, le rappel du don de la loi à Moïse sur le mont Sinaï, même si cela ne correspond pas à un texte biblique clair, l'habitude s'est installée. Pour les Juifs, par contre, ce qui est clairement en relation directe avec le texte biblique, et le livre du Lévitique en particulier, c'était la fête de la moisson. Alors ça ne colle pas très bien pour nous, mais en Israël ça marche. C'est ce qu'on m'a dit quand j'étais tout jeune, enfant de paysan à Roche-les-Blamont, et que je ne comprenais pas bien qu'on fête la moisson début mai. En Israël, ça marche. C'est la fête de la moisson, de l'abondance, de la générosité de Dieu. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé son esprit sur ses disciples 50 jours après Pâques. 50 jours, c'est ce qui a donné le nom à la fête. Pentecôte, c'est 50 en grec. 50 jours, une semaine de semaine, plus un jour, 7 fois 7, 49, plus un 50. Une semaine de semaine après Pâques, Dieu a décidé, avec un symbolisme très fort, que la réalisation des promesses était possible et que la Pentecôte pouvait avoir lieu, que son esprit pouvait être généreusement donné. Et pour cela, il a choisi la fête de la moisson. Il n'a pas choisi la fête au moment où on ne voit rien pousser, mais la fête de la moisson et de l'abondance. Ceci nous est raconté au début du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, et cela correspond au début de l'Église. Il y a 2000 ans, donc, Dieu a répondu à un besoin tellement important en nous accordant le Saint-Esprit pour que l'Église puisse naître et que le peuple de Dieu puisse continuer. Donc le Saint-Esprit a été généreusement répandu il y a 2000 ans. Donc depuis, tout se passe bien. Pas tout à fait. Le problème, vous le savez, n'est pas du côté de Dieu. Nous pourrions grandir comme un arbre bien arrosé. Le Saint-Esprit a été répandu et est répandu généreusement du côté de Dieu. Nous pourrions être au bénéfice de l'œuvre constante et bien accueillie en nous du Saint-Esprit, mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi? Et j'ai pensé intéressant d'y réfléchir en ce jour de Pentecôte et d'y réfléchir en relisant quelques textes qui nous enseignent comment écouter, marcher, vivre par l'Esprit. Ce thème est tellement pratique, tellement important aussi, que je vous propose, après la prédication, de faire ce que mon jeune collègue Mathieu Odap nous a proposé une fois ou l'autre, un temps de questions, compléments, témoignages. Un micro circulera. Si après la prédication, vous voulez ajouter un texte ou une question concernant ce thème tellement pertinent, tellement important pour notre vie chrétienne. En introduction, je lirai quelques versets bien connus qui affirment de grandes promesses et de grandes vérités concernant la marche du croyant par l'Esprit. Déjà, un texte dans l'Ancien Testament, avant la Pentecôte, mais la vérité était là, dans Zacharie 4. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par mon esprit quoi? Que la victoire peut être obtenue et que la vie peut continuer selon la volonté de Dieu. Dieu affirme ici ce qui va être beaucoup redit dans le Nouveau Testament, en particulier par Paul dans sa lettre aux Galates, quand il demande à ses croyants s'ils sont tombés sur la tête. Il a un mot plus violent que le mien. Paul demande aux Galates s'ils sont tombés sur la tête. Pour penser une minute, pouvoir marcher sans l'aide de l'Esprit, après avoir commencé par l'Esprit. Je reste dans l'Ancien Testament. David avait compris cela il y a 3000 ans, 1000 ans avant la Pentecôte, 3000 ans avant nous. David dit dans son psaume de repentance assez connu, le psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un cœur nouveau. » Pas simplement un cœur un peu soutenu, un peu corrigé, non, un cœur nouveau, crée en moi. Voilà une des grandes promesses que Dieu avait données, que David a comprises, et qui prépare l'enseignement de Jésus à Nicodème. Nicodème, grand savant théologien, qui vient réviser les grandes doctrines avec un rabbin connu, Jésus. Et Jésus qui lui dit, mais sans naître de nouveau, c'est pas possible. Sans naître de nouveau, sans quelque chose de tout neuf, de créé par Dieu en toi, c'est pas possible. C'est absolument incontournable qu'il y ait quelque chose de neuf que Dieu crée en nous par son esprit. Dans le sermon sur la montagne que nous avons relu le mois dernier et puis ce mois-ci encore, nous avons tellement d'appels solennels à vivre d'une façon complètement nouvelle, extraordinaire, au point que nous sommes invités à ressembler à la perfection de Dieu. Impossible sans une transformation intérieure et l'action du Saint-Esprit. J'en arrive à Romains 8 et Galates 5. Tout d'abord, Romains 8, 1, qui suit un chapitre dans lequel l'apôtre Paul dit à quel point la lutte est rude. Romains 7 est un chapitre dans lequel l'apôtre Paul dit, confesse qu'il a un mal fou, traduction Étienne Gros-Renault, à faire ce qu'il devrait faire, et qu'il a tout autant un mal fou à ne pas faire ce qu'il voudrait mettre de côté. Et le chapitre 8 qui suit commence par cette affirmation de victoire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et le chapitre 8 va se terminer avec une affirmation que nous aimons relire, qui dit que rien ni personne, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce chapitre commence avec cette affirmation, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Clin d'œil au chapitre précédent et cette lutte entre la chair et l'esprit. Une minute de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la chair? Les nouvelles traductions évitent ce mot qui pourrait être mal compris. Par exemple, la Bible en français courant parle des désirs de votre propre nature. Ceci dit, notre nature propre, pour faire un jeu de mots solennel, elle n'est pas propre justement. Elle est propre au sens que c'est la nôtre, pas du tout au sens qu'elle est bonne. Parole de vie dit les désirs mauvais. C'est encore plus clair. On perd l'enseignement qui dit que ça fait partie de notre nature, hélas, ces désirs mauvais. Et donc je fais une remarque, puisque ça va revenir plusieurs fois dans les minutes qui suivent, pour clarifier ce que l'apôtre Paul appelle vivre selon la chair. C'est notre nature propre, notre nature au départ, mais pas tout à fait au départ. Notre nature au départ, une fois que le péché est entré dans le monde. Parce qu'en fait, il y a trois états. Notre nature tout au départ, la nature d'Adam et Ève, c'était quoi? C'était parfait. Donc notre nature de départ, elle est toute bonne. Et il en reste des choses. Et l'image de Dieu en nous reste malgré l'impact catastrophique du péché. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'y perd un peu quelquefois, parce que dans notre nature, il reste du bon du départ. Mais notre nature propre au sens de la deuxième étape, tous ceux comme nous qui sommes nés après Adam et Ève, c'est notre cas à tous, qui sommes nés avec une nature touchée par le péché, c'est cette deuxième état, la nature de tout homme qui est né dans un contexte où le péché est là, c'est cet état-là qui est appelé la chair. Et le troisième état, c'est notre nature régénérée. Le Saint-Esprit veut remettre en nous l'attachement au bien, l'attachement à Dieu, réparer tout ce que le péché abîme et a abîmé, et restaurer la relation avec Dieu. Ça va ? Donc la nature toute première, elle était bonne. Ce qu'on appelle la chair, c'est la nature propre dans le contexte d'un monde touché par le péché. Elle est hélas bien abîmée. Et puis la troisième nature, la nouvelle naissance, liée à la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu permet en créant ce cœur nouveau et en régénérant en nous ce qui doit être régénéré. Et ce qui nous permet de marcher, verset 4. Pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'est pas simplement question d'être touché un jour, il est question d'une marche, on y reviendra. Galates 5, j'ai lu le verset 1 tout à l'heure, qui dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Le verset 16 dit « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » L'opposition est affirmée très clairement ici, entre ma nature liée au contexte de péché et ce que Dieu veut pour moi. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dernier verset d'introduction, Galates 5, 25. Si nous vivons par l'esprit, si c'est l'esprit qui nous a conduits à la repentance, à l'acceptation du salut et qui nous a permis de devenir chrétiens, croyants, alors marchons aussi par l'esprit. N'ayons pas dans notre agenda solennel une date de conversion. On est devenu croyant, on a compris que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Et puis après, plus beaucoup de conséquences. Non, ça ne marche pas, c'est le cas de le dire. Si nous vivons par l'esprit, dit Paul, marchons par l'esprit. Et c'est dans ce même chapitre qu'il y a une perle que j'aime beaucoup méditer et que vous connaissez bien, le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, sinon, si l'on marche par l'esprit, alors on permet à ce fruit de l'esprit, qui vient de Dieu, qui est développé par l'esprit, de se développer. On ne peut pas le développer nous, mais on peut hélas freiner son développement. Notre action ne peut pas être celle qui fait naître le fruit de l'esprit, mais notre action peut freiner ce merveilleux fruit de l'esprit. Et je vous propose ce matin trois verbes pour réfléchir à ce qu'est la vie du chrétien, au bénéfice de la Pentecôte que nous fêtons et de l'action du Saint-Esprit qui a été donnée et que nous fêtons parce qu'il a été donné le jour de la Pentecôte. Écouter, se soumettre, marcher. Tout simple. Au point que j'ai décidé de ne pas faire de PowerPoint. Ah oui. Écouter, se soumettre, marcher. Tout d'abord, écoutez un autre verset de Romains 8. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. C'est un des textes les plus clairs qui disent qu'il n'y a pas de vie chrétienne possible sans l'action de l'esprit de Dieu. Et si on veut être sous l'impact, sous l'emprise du Saint-Esprit, la toute première étape est de l'écouter, de l'accueillir. Si on veut bénéficier d'un bon professeur, d'un bon coach, il faut commencer par l'écouter. Impossible d'être au bénéfice de l'impact d'un professeur, impossible d'être au bénéfice de l'impact du Saint-Esprit sans l'écouter. Il nous faut commencer par entendre ce qu'il dit. En particulier, nous aimons le rappeler, et je le fais ce matin, par la lecture de la Bible, que le Saint-Esprit va utiliser pour nous rappeler tout ce que le Seigneur a enseigné et pour nous aider à le comprendre et pour faire ce que nous avons plusieurs fois chanté ce matin, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux, si vous acceptez les mots un peu plus anciens, ouvrir notre entendement pour qu'on s'y retrouve, pour que ça prenne sens. Et j'aimerais repérer trois pièges qu'il nous faut absolument éviter et qui peuvent nous conduire à ne pas nous mettre assez à l'écoute du Saint-Esprit. Pour cela, pour nous mettre à l'écoute, il ne faut pas être orgueilleux et croire qu'on sait tout. Qu'on n'a pas besoin de guide et d'aide extérieure. Alors c'est en général pas flagrant dans nos vies, dans nos têtes. On n'a pas forcément une attitude d'orgueil installée qui dit « moi je sais tout, arrêtez de me dire qu'il y a encore des choses à apprendre ». Par contre, les variantes plus modérées existent. Penser qu'on n'a plus autant besoin que, ou qu'on n'a pas forcément tellement besoin que cela, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de l'Esprit qui va utiliser cette parole de Dieu pour nous conduire, c'est ce que je pense quand je néglige la lecture de la Bible. Mine de rien, je pense que je n'en ai pas tellement besoin puisque je me permets de le négliger. Donc l'orgueil est là. Peut-être, je viens de prononcer un autre mot, la négligence n'est pas forcément de l'orgueil. À coup sûr, elle peut ne pas être de l'orgueil. Mais elle nous joue des tours. On peut être négligent et paresseux et ne pas faire l'effort d'écouter. C'est un effort d'écouter. C'est bientôt les vacances, pour certains. Mais c'est un effort d'écouter, c'est un effort de se concentrer, c'est un effort de recevoir un enseignement. Donc attention à l'orgueil, attention à la négligence. Plus grave, j'ai un troisième avertissement qui m'est venu. Attention de ne pas refuser d'écouter. C'est possible ça? Attention de ne pas refuser d'écouter, par exemple, parce qu'on n'aurait pas envie de changer d'avis. Et là, si je demande si c'est possible, c'est déjà fait. Des sourires arrivent. C'est tellement difficile, souvent, d'accepter de changer d'avis. Donc il nous faut écouter l'Esprit, en particulier par la lecture de la parole de Dieu, et il faut que cette lecture de la parole de Dieu traduise notre désir d'écouter celui que l'on reconnaît être le maître, que nous devons écouter, celui qui va nous parler de la part du Père et du Fils qui est venu révéler le maître. Il nous faut écouter. Il nous faut aussi écouter l'Esprit quand il nous parle, parce que la parole de Dieu est dans nos mémoires, ou parce qu'il agit directement dans notre pensée, sur notre conscience, qu'il nous met à cœur quelque chose qui semble bien venir d'en haut, ça peut arriver aussi. Et quelquefois on va l'écouter, quelquefois on ne va pas vouloir s'embêter avec une pensée qui vient d'ailleurs. Ne pas refuser, cela introduit mon deuxième verbe, se soumettre. L'Esprit ne s'impose pas. Par la grâce de Dieu, Dieu nous parle beaucoup plus souvent que nous ne sommes prêts à écouter. Mais quand même, il y a cette responsabilité de notre côté qui consiste à se soumettre, à accepter ce que l'Esprit nous dit. Ça ne suffit pas d'écouter. On peut écouter sans donner suite. Il ne suffit pas d'écouter pour savoir. Il ne suffit même pas de trouver que c'est bien dit. Là, c'est une belle pensée. Ça ne suffit pas. Il faut reconnaître la vérité avec la force et l'autorité qu'elle a. Galates 5, 16 à 17. L'apôtre Paul dit dans ce chapitre où il parle beaucoup de l'esprit et de la liberté que nous trouvons dans la soumission, j'ai bien dit, la liberté que nous trouvons dans la soumission à l'Esprit. Et il dit au milieu du chapitre, verset 16, « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » Merci. « Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Un des versets qui dit clairement, mes amis, le constat est là. Vous ne pouvez pas vous soumettre à Dieu sans vivre le déchirement de la mise à l'écart, de la mise en second, de la mise au rebut de certaines pensées qui viennent de vous et qui sont contraires. D'où l'exhortation au début du verset 16, « Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. » On est croyant, on a vécu la conversion, la repentance, on a reconnu nos péchés, on sait que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place, on a pris le pain, on a pris la coupe. Mais on ne laisse pas forcément le Saint-Esprit diriger notre vie pendant toute la semaine. Allez, pendant toute la journée. Et bien sûr, les jours qui suivent. Nous sommes ici avec ce que j'appelle un cran de plus. Après l'écoute, qui est déjà une très belle étape importante, nous sommes devant une étape plus difficile, se soumettre, accepter que l'Esprit a raison, au point de renoncer à mon propre avis. Et la lutte est rude. J'ai évoqué tout à l'heure le chapitre 7 de la lettre de Paul aux Romains, chapitre solennel dans lequel l'apôtre reconnaît la lutte intérieure terrible qui se joue entre ma volonté non régénérée et la volonté de l'Esprit de Dieu qui me parle. La victoire est promise. Elle est certaine. Romains 8, 1. Romains 8, fin du chapitre. Mais la lutte est rude. Et l'apôtre Paul le reconnaît pour lui-même. Si je reviens à Galates 5, puisque les deux chapitres sont très proches, dans Galates 5, il parle de la lutte terrible, au point qu'il dit, après le très beau fruit de l'esprit, « Ceux qui ont compris cela ont crucifié la chair. » Vous connaissez un mot plus dur ?« Ont crucifié la chair avec ses passions. » Donc ce merveilleux fruit de l'esprit qui correspond à ce que Dieu veut développer en moi, a commencé à développer en chacun de nous, est en chemin en chacun de nous, correspond aussi à, de notre côté à une attitude de soumission décrite par l'apôtre Paul avec un mot très fort. Ceux qui sont dans ce cas-là, qui marchent par l'esprit, ont crucifié la chair. Et moi, je vous invite à reconnaître que c'est le cas, que c'est très dur et que la lutte est rude. Et que les mauvaises pensées, que les mauvaises idées, que les mauvaises tendances qui nous viennent de notre nature pécheresse nous créent la vie dure. Et ne pas le reconnaître, c'est ne pas préparer la victoire. Je vous invite à le reconnaître devant Dieu surtout, une fois ou l'autre entre nous, dans un temps de prière à deux, pour nous serrer les coudes dans cette lutte extrêmement importante. Pour que nous entendions l'appel, version positive de Galates 5.1, c'est pour la liberté que le Christ vous a libéré, ça paraît presque une vérité de la palisse, mais c'est merveilleux, c'est pour la liberté que le Christ vous a libéré, avec l'exhortation très étonnante qui suit, faites bien attention de ne pas avoir trop envie de retourner en prison. Terrible, hein ? Faites bien attention de ne pas avoir trop envie de retourner en prison. Parce que ma nature non régénérée me tire vers le bas. Mais la vraie liberté, elle est possible. Et la vraie liberté, c'est se soumettre au Christ. Premièrement, écouter. Deuxièmement, se soumettre. Ceux qui ont fait le cathé savent que j'aime méditer Galates 5. Et c'est avec eux. Et cette étonnante affirmation que la liberté, c'est se soumettre. On n'a pas ça en tête. Pas plus les pré-ados, je vous rassure, que nous tous dans la salle. La liberté, c'est se soumettre. Et je le proclame modestement avec mon expérience. La liberté, c'est se soumettre à Christ. Et faire ce que je fais par nature non régénérée, le plus facilement possible, c'est un esclavage, promis. Priez pour moi. je veux être moins esclave de ce qui, la semaine dernière, a abîmé une journée, une heure, une relation. Faire ce que j'ai envie de faire au sens de ma nature non régénérée, c'est un esclavage. Faire ce que je veux faire, ce n'est pas la liberté. Par la grâce de Dieu, ce que j'ai envie de faire peut devenir de plus en plus ce que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle la nature régénérée. Le Christ nous a rendus libres pour que nous soyons vraiment libérés. Troisième mot, marcher. Écouter, se soumettre, marcher. Je relis Galates 5, 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Autre traduction, plus courte, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. De quoi est-il question ici? C'est encore un cran de plus. Il faut écouter, il faut se soumettre et reconnaître que la vérité est du côté de l'Esprit. Et puis, le dernier cran, il faut en faire sa marche quotidienne, il faut en faire un style de vie. Ça doit me marquer dans le long terme, pas simplement de façon forte au groupe de jeunes, à l'étude biblique, au culte, au Bible et café, avec des pics dans la semaine, non. Ça ne suffit pas. Ça doit correspondre à ma marche, à l'école, à la maison, dans la rue, dans le bus, dans le train, en avion, n'importe où. À ma marche, cela évoque la constance de ce qu'on peut appeler un style de vie. Ce n'est pas pour un jour, pour voir comment ça fait. C'est une marche. Et cela correspond à une transformation intérieure qui fait que je change de style, justement. Le fruit de l'esprit correspond à quelque chose qui colore toute ma vie. Le fruit de l'esprit donne 9 mots merveilleux qui ne touchent pas une activité particulière. L'amour, la joie, la paix, la patience, ça touche tous les domaines de notre vie. Et nous sommes bien là devant une marche quotidienne. Le fruit de l'esprit nous parle d'une transformation extrêmement profonde et intérieure. Elle correspond à la sanctification que l'esprit opère en nous. Nous avons osé chanter tout à l'heure, « Mon seul désir, c'est d'être saint ». Notre caractère, notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, tout est complètement touché, transformé par le Saint-Esprit. Est-ce notre expérience? Est-ce notre rêve? Est-ce notre espérance confiante dans le Seigneur? Oui, nous pouvons avoir cette espérance confiante dans le Seigneur, que ce style de vie correspond à ce qu'il est en train de nous accorder, de nous offrir. La visée est très haute, mais souvenons-nous que c'est l'œuvre de Dieu, le fruit de son esprit. C'est probablement un des défis marquants dans la vie des croyants que nous sommes ou des croyants que nous pouvons devenir pour ceux qui ne le seraient pas encore dans cette salle. Pour les croyants, dont je fais partie, normalement on écoute, au moins un peu. Dans pas mal de cas, on affirme que la vérité est du côté de Dieu et de son esprit, de sa parole. Mais dans de trop nombreux cas, on a du mal à marcher. Dans la durée, dans la persévérance, dans tous les domaines de la vie, dans l'écoute et la soumission. À marcher le dimanche et la semaine. À marcher le jour de la Pentecôte et tout ce qui est entre celui-ci et l'année prochaine. Un des défis, me semble-t-il, les plus concrets pour la majorité d'entre nous dans cette salle, qui prenons le temps d'écouter, qui affirmons facilement que c'est le Saint-Esprit qui a raison, un des défis encore vraiment devant nous, souvent, est le troisième échelon, la marche. Que constamment nous soyons pilotés par celui qui veut nous conduire d'un côté ou d'un autre, et surtout avec une attitude qui correspond à ce fruit de l'esprit. Avant de vous donner la parole, en conclusion, bénissons Dieu Je termine comme j'ai commencé. Bonne fête de Pentecôte. Pensez à la moisson, bénissez Dieu et au cadeau incroyable du Saint-Esprit. Et puis un deuxième mot de conclusion, persévérons de toutes nos forces dans l'engagement que cela représente pour ne pas nous priver de ce cadeau complètement indispensable pour la vie chrétienne. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Je prie pour qu'elle nous fasse tellement envie que cela nous aide à gagner un cran dans le style de vie de ceux qui sont libérés, qui sont libres. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Marchons par l'Esprit. Amen. S'il y a des remarques, des compléments, un témoignage, un verset qui vous aide, un verset qui vous laisse perplexe depuis quelques années, ou moins. Merci Mathieu d'être prêt. Gilles, à donner le micro si quelqu'un veut réagir maintenant. Marie-Ève, t'es partie du mauvais côté mon pauvre, mais tu vas la voir.
La distinction entre chair et esprit, je trouve, enfin j'ai peur que souvent on la comprenne mal et qu'on associe à chair ce qui est physique. Alors que, bon, tu l'as dit, c'est la nature humaine plus que tout ce qui concerne le corps, le physique et tout ça. C'est plus, entre chair et esprit, le vocabulaire est compliqué. Oui. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup. Oui, c'est très très juste. La chair, de toute évidence, n'est pas du tout. La partie matérielle de nous, et crucifier la chair, c'est pas se faire des incisions. C'est intérieur. Merci beaucoup, Marie-Ève, de clarifier encore. Au point que c'est peut-être bien de quand même s'adapter, de trouver un vocabulaire plus juste. Oui.
J'aimerais te remercier, Étienne, pour la clarté de ton enseignement.
Merci.
Et j'aimerais juste préciser encore que nous avons en la personne du Saint-Esprit quelqu'un qui nous guide. Mm-hmm. Et enfin, je répète simplement, mais c'est effectivement une personne dont nous avons vraiment besoin pour marcher.
Oui. Merci, Ouli. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que je suis heureux que dans nos milieux, on un peu plus qu'il y a quelque temps, j'entends, oui, parlons du Saint-Esprit. On a besoin de mieux le connaître. On a besoin de mieux s'y retrouver. Ce n'est pas parce qu'une fois ou l'autre, des enseignements nous ont paru pas justes qu'il faudrait s'en priver. Non, non, non. On a besoin de toujours mieux connaître cette personne de la Trinité, comme Isabelle nous l'a rappelé aussi. Et merci pour l'encouragement. Ouli, nous voulons marcher ensemble. D'autres remarques ? Oui. Anne-Marie, un peu plus loin derrière. Merci Gilles.
Je bénis Dieu pour sa présence et qui utilise des hommes de Dieu et des femmes de Dieu pour s'expliquer lui personnellement, à nous dire que Dieu le Père choisit et fait ce qu'il veut faire. Mm-hmm. Mais Dieu, Jésus, le Fils, accomplit la volonté de Dieu le Père. Et Dieu, le Saint-Esprit, réalise tout ce que Dieu veut faire et tout ce que Jésus accomplit.
Amen.
À dire que c'est à nous, les êtres humains, choisis par Dieu, d'écouter, obéir et suivre la volonté de Dieu et pas la volonté humaine.
Merci.
Merci soit donné à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour ces hommes et ces femmes qui utilisent pour nous enseigner et nous aider à obéir. Amen.
Merci Anne-Marie. Encore une remarque, un défi, une question, oui.
Alors moi j'ai pu constater par le temps que le fait qu'il y ait pour chacun d'entre nous encore cette partie humaine qui fait des choses qu'on ne veut pas faire, mm-hmm, peut être très décourageante et même, ouais, déprimante pour le chrétien.
Oui, je suis d'accord.
Donc j'aimerais donner une parole d'encouragement en disant qu'on se bat contre cela, ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut pas non plus se laisser culpabiliser et croire que Jésus a tout accompli pour nous. Et s'abandonner à lui tout simplement. Voilà. C'est juste pour que... On peut déprimer parfois de dire, purée Seigneur, j'ai encore fauté et je n'y arrive pas. Mais heureusement que le Christ a tout accompli. Et j'aimerais vraiment qu'on ne se laisse pas descendre par le malin qui veut nous faire croire qu'on est pas capable.
Merci beaucoup. J'ai envie d'en faire la conclusion. Merci beaucoup. C'est tellement vrai. Satan nous dit un gros mensonge quand il nous dit c'est pas trop grave de pécher. Et après, dans sa méchanceté, quand on est tombé, il nous dit un autre gros mensonge, complètement contraire. Mon petit gars, ce que tu as fait, c'est tellement nul que tu n'as plus beaucoup d'espoir, que ta vie ait du sens. C'est un grand menteur. Et le deuxième mensonge est grave. Et tu m'introduis pour relire tout à l'heure, en toute fin du culte, la fin de Romains 8 qui proclame la victoire. Mais avant, je crois qu'on a un chant qui est prévu encore et qu'on le va chanter maintenant.